ce podcast traitera du rôle du pharaon dans l'Égypte ancienne, un chapitre extrait du livre « La culture de l'Égypte ancienne révélée », deuxième édition de Mustapha Gadala. Ce podcast comprend trois sujets.
Premier sujet, le maître serviteur. Contrairement à l'image déformée du pharaon donnée par Hollywood et la Bible, le représentant comme un tyran cruel vivant une vie facile, vaine et fastueuse, le pharaon n'avait pas de pouvoir politique. Il vivait dans une maison de terre et passait son temps à accomplir son devoir d'intermédiaire entre le monde naturel et surnaturel en effectuant des rites et des sacrifices. On n'attendait pas d'un pharaon qu'il soit le chef d'une armée victorieuse, mais on espérait de lui qu'il garantisse de riches récoltes. Il était assimilé aux cultures et était salué par notre culture et notre récolte. En premier lieu, la fonction principale du pharaon était fondamentalement religieuse. Il était un représentant du peuple face au pouvoir de l'univers, des nétérous, des énergies. Il devait être élevé à leur niveau. Il était le canal, l'intermédiaire. Il était la source de prospérité et de bien-être de l'État pour son peuple. Il était son serviteur, pas son tyran. Il déposait les graines au début de la saison, puis récoltait les fruits au moment de la récolte. Il passait son temps à servir les intérêts de son peuple en accomplissant les rituels nécessaires, en allant d'un temple à l'autre à travers le pays. De par son activité intense avec les pouvoirs du surnaturel, on croyait que le corps du pharaon était empreint d'une vitalité divine qui se transmettait à tout ce qu'il touchait. Son autorité de chef ou de roi et sa légitimité à gouverner son peuple provenaient du fait que celui-ci l'acceptait comme descendant de leur ancêtre fondateur. Il était, en essence, le lien cosmique entre le présent et le passé. Le droit de gouverner était considéré comme une suite régulière de légitimité qui se basait sur les principes matriarcaux où la lignée royale en Égypte se transmettait par la fille aînée. Quelle que soit la personne qu'elle épousait, celle-ci devenait le pharaon. S'il n'engendrait pas de fille, une nouvelle dynastie était formée. Il n'y avait pas de sang royal dans l'ancienne Égypte, comme expliqué auparavant dans le chapitre 4. Deuxième sujet, le gouvernement du peuple. Le comportement du pharaon et son mode de vie étaient dictés par des règles prédéfinies, car sa principale fonction était d'assurer la prospérité et le bien-être de ses sujets. Les lois résidaient dans les livres sacrés et régissaient l'ordre et la nature de ses occupations. Diodore signala que le pharaon menait habituellement une vie austère. Pas même le plus intime de ses courtisans pouvait le voir manger ou boire. Quand le roi mangeait, il le faisait en privé. La nourriture lui était offerte selon le même rituel que les prêtres employaient pour offrir un sacrifice à des nétérous ou des dieux, des déesses. Il lui était interdit de commettre des excès. Même le type d'aliments et leur qualité étaient définis avec précision. Même si le roi avait les moyens de défier les règles prescrites, la voix du peuple pouvait le punir à sa mort en lui infligeant la disgrâce d'exclure son corps de sa tombe lors de l'enterrement. Alors que le corps du roi défunt était placé en l'état près de l'entrée de sa tombe, on demandait au peuple rassemblé si quelqu'un s'opposait à la mise au tombeau du roi parce qu'il n'avait pas accompli ses devoirs. Si le public exprimait son désaccord par des murmures appuyés, il était privé de l'honneur de recevoir les funérailles publiques d'usage et d'être enterré dans sa tombe. Bien qu'il fût exclu d'un enterrement dans la nécropole, le corps du pharaon qui avait failli à ses devoirs avait le droit d'être enterré quelque part. Un bon exemple est la fosse commune qui a été découverte en 1876 à proximité du temple commémoratif Hatshepsut, connu à tort sous le nom de Morg et qui est située sur la rive ouest du Nil à Louxor. Elle contenait les momies de 40 pharaons, reines et nobles, dont les agissements n'avaient pas satisfait le peuple. On trouvait les momies de pharaons bien connus et aux noms influents tels que Amenhotep Ier, Thoutmôsis II et III, Séti Ier, Ramsès Ier et III. Dans un livre d'enseignement, un roi égyptien conseilla à son fils d'atteindre les plus grandes vertus, car à sa mort, sa vie aurait défilé sous ses yeux et sa performance sur terre aurait fait l'objet de l'évaluation des juges. Aussi loin que remonte la sixième dynastie, 2323 avant notre ère, on retrouve l'idée que le ciel était réservé à ceux qui avaient accompli, tout au long de leur vie sur terre, leurs devoirs envers les hommes et les puissances divines. Personne, même les rois, n'échappait à la règle. Ainsi, nous pouvons lire dans le texte d'Ounas le passage suivant. Il n'y a pas d'incrimination envers Ounas sur terre, chez les hommes. Il n'y a pas d'accusation envers lui, au ciel, chez les Néterous. Le texte nous apprend que le pharaon Ounas, 2323 avant notre ère, fut admis au paradis pour son grand mérite, à la fois envers ses compagnons humains et Dieu. Troisième sujet, le roi victorieux. Il est largement reconnu que les Égyptiens anciens et présents sont un peuple non guerrier. C'est pourquoi l'Égypte n'était pas intéressée par la construction d'un empire et encore moins par une occupation militaire. L'Égypte était simplement intéressée à neutraliser les éléments hostiles qui menaçaient sa propre sécurité. L'Égypte s'appuyait presque exclusivement sur des mercenaires étrangers pour mener à bien une telle tâche. Les pharaons du nouveau royaume utilisaient la diplomatie et le mariage à des princesses étrangères pour éviter tout conflit, la force étant seulement utilisée quand toutes les autres options étaient épuisées. La guerre, telle que pratiquée par les Égyptiens anciens, suivait des règles aussi strictes qu'un jeu d'échecs et avait des rituels spécifiques. C'était un vrai peuple civilisé. Une guerre avait une signification religieuse profonde. Elle symbolisait les forces de l'ordre contrôlant le chaos et la lumière triomphant sur les ténèbres. Dans les temples, tombes et textes d'Égypte ancienne, les vices humains étaient représentés comme des étrangers. Le corps malade est malade car il est envahi par des germes étrangers. Les étrangers étaient représentés en situation de faiblesse, les bras attachés derrière le dos, pour illustrer le contrôle intérieur de soi. L'exemple le plus vivide de contrôle de soi est la représentation commune du pharaon, l'homme parfait, sur les murs extérieurs des temples de l'Égypte ancienne, contrôlant des ennemis étrangers, c'est-à-dire les ennemis, les impuretés de l'intérieur. La même scène de guerre était reprise dans différents temples dans tout le pays, ce qui dénote son symbolisme et non sa représentation d'événements historiques. Les scènes dites de guerre symbolisaient la lutte sans fin entre le bien et le mal. Très souvent, il n'y a pas de fait historique tangible à de telles scènes de guerre, même si une date précise est donnée. Tel est le cas des scènes de combat sur le pylône du temple de Medinet Abou, sur la rive ouest du Nil à Louxor, anciennement Thèbes. Les académiciens occidentaux sont incapables de comprendre des réalités métaphysiques et c'est pourquoi ils expliquent des concepts métaphysiques par des événements historiques. La fameuse bataille de Kadesh est en réalité le drame personnel d'un individu, homme divin, le roi en chacun d'entre nous, qui soumet ses forces internes du chaos et des ténèbres. Kadesh signifie saint, sacré. C'est pourquoi la bataille de Kadesh signifie le conflit intérieur, c'est-à-dire une guerre sacrée qui a lieu en chaque individu.
Merci d'avoir écouté cet extrait tiré du livre « La culture de l'Égypte ancienne révélée », deuxième édition de Mustapha Gadala.